Alessandro Manzoni, Les fiancés, histoire milanaise du XVIe siècle. Chapitre 1er. Ce bras du lac de Como, qui se dirige vers le midi entre deux chaînes non interrompues de montagnes, en formant autant de petits golfes et de petites baies que ces montagnes forment elles-mêmes de sinuosités, se resserre comme tout à coup et prend le cours et l'apparence d'un fleuve entre un promontoire à droite et une large côte à l'autre bord. Le pont, qui dans ce lieu réunit les deux rives, semble rendre plus sensible à l'œil cette transformation et marquer le point où le lac cesse et l'Adda recommence pour reprendre ensuite le long de lac là où les rives, s'éloignant de nouveau, laissent l'eau s'étendre et son cours se ralentir dans de nouveaux golfes et de nouvelles baies. La côte, formée du dépôt de trois forts torrents, vient en pente, s'appuyant dans sa partie supérieure au pied de deux monts contigus, dont l'un porte le nom de San Martino et l'autre s'appelle, en dialecte lombard, Il Resegone, la grosse scie, à cause de ses nombreuses dentelures qui le font en effet ressembler à une scie, de sorte qu'il n'est personne qui, le voyant de face, comme par exemple des murs de Milan tournés vers le nord, ne le distingue aussitôt, à ce seul indice, dans la longue et vaste chaîne de montagnes d'un nom moins connu et d'une forme plus ordinaire, parmi lesquelles il se montre. Assez longtemps la côte s'élève sur une pente douce et continue, puis elle se rompt en coteaux et en petites vallées, en éminences et en bas-fonds, selon la structure des deux montagnes et l'ouvrage des eaux qui en descendent. La rive extrême sur le lac, coupée par les torrents à leur embouchure, n'est à peu près que gravier et gros cailloux. Le reste présente des champs cultivés et des vignobles, au milieu desquels se voient des villages, des maisons de campagne, des hameaux, et, sur quelques points, des bois qui s'étendent jusqu'à la montagne et s'y prolongent. Lecco, le principal de ces lieux d'habitation, et qui donne son nom à tout le territoire, est situé à peu de distance du pont, sur le bord du lac, et même se trouve en partie dans ses eaux lorsqu'elles s'élèvent. C'est maintenant un gros bourg qui tend à devenir ville. Au temps où se passèrent les événements que nous entreprenons de raconter, ce bourg déjà considérable était en même temps un château fortifié et avait, en conséquence, l'honneur de loger un commandant, ainsi que l'avantage de posséder une garnison permanente de soldats espagnols qui enseignaient la modestie aux jeunes filles et aux femmes de l'endroit, caressaient de temps en temps les épaules de quelques maris ou de quelques pères, et vers la fin de l'été ne manquaient jamais de se répandre dans les vignes pour amoindrir la quantité de raisins et soulager ainsi les paysans dans les travaux de la vendange. De l'un à l'autre de ces villages, des hauteurs au lac, d'une éminence à celle qui l'avoisine, couraient et courent encore de petits chemins et des sentiers assez unis en quelques endroits, inégalement escarpés en d'autres, tantôt enfoncés et comme ensevelis entre deux murs, d'où, levant la tête, vous n'apercevez qu'une étroite bande du ciel et quelques cimes de montagnes, tantôt élevées sur des plateaux ouverts. Et de là, s'offrent des points de vue, plus ou moins étendus, mais toujours riches et toujours nouveaux en quelque chose, selon que, des divers sites où vous vous trouvez, vous embrassez plus ou moins de la vaste scène environnante, et que telle ou telle partie se détache ou se raccourcit, se montre ou disparaît tour à tour. Ici une échappée sur le vaste miroir des eaux, là une autre, là sa gracieuse variété s'étalant sur un plus grand espace. De ce côté, le lac fermé à l'extrémité, ou plutôt dérobé dans un groupe, un labyrinthe de montagnes, puis reparaissant et s'élargissant parmi d'autres montagnes qui se déploient une à vos regards, et que l'eau réfléchit renversées avec les villages et les habitations situées sur les rives. Du côté opposé, un bras de fleuve devenant lac, puis fleuve encore, qui serpente dans son cours lumineux, et va de même se perdre à travers les monts qui l'accompagnent en baissant par degrés et se perdant presque, eux aussi, dans l'horizon. Le lieu d'où vous contemplez ces divers spectacles vous fait lui-même spectacle de toutes parts. La montagne dont vous parcourez les premiers plans déroule au-dessus de vous, tout autour de vous, ses cimes et ses précipices, marqués, dessinés, changeant presque à chaque pas. Ce qui vous avait paru un mont s'ouvrant et se contournant en une chaîne de monts, une crête vous apparaissant là où vous n'aviez vu que la pente. Et l'aspect riant, l'aspect, pourrait-on dire, domestique de ces plans inférieurs, tempère agréablement ce que présentent de sauvage les autres perspectives, en orne d'autant plus la magnifique grandeur. C'est par l'un de ces petits chemins que, le 7 novembre 1628, vers la fin du jour, revenait à petits pas de la promenade pour rentrer chez lui, Don Abbondio, curé de l'un des villages dont nous avons parlé tout à l'heure. Le nom du village, non plus que le nom patronymique du curé, ne se trouve dans le manuscrit, ni ici ni ailleurs. Il disait tranquillement son office, et quelquefois, entre un psaume et l'autre, il fermait le bréviaire, y tenant en guise de signet l'index de la main droite. Après quoi, mettant cette main dans l'autre derrière son dos, il poursuivait sa marche, regardant à terre et rejetant du pied vers le mur les cailloux qui faisaient obstacle sur son passage. Ensuite, relevant la tête et portant nonchalamment les yeux autour de lui, il les arrêtait sur une partie de montagne où la lumière du soleil déjà caché, passant par les intervalles que laissait la montagne opposée, jetait ses teintes çà et là sur les masses saillantes de rochers comme de larges et inégales bandes de pourpre. Puis, ayant ouvert de nouveau son bréviaire et récité une autre tirade de versets, il arriva à un détour du chemin où il avait l'habitude de lever toujours les yeux de dessus son livre. Et c'est ce qu'il fit encore ce jour-là. Le chemin, après ce coude, allait en droite ligne une soixantaine de pas, et puis se divisait en deux sentiers à la manière d'un Y. Celui de droite montait vers les hauteurs et menait à la cure. L'autre descendait dans le vallon jusqu'à un torrent, et de ce côté, le mur n'arrivait pas au-dessus des hanches du passant. Les murs intérieurs des deux sentiers, au lieu de se réunir en angle, se terminaient à un oratoire sur lequel étaient peintes certaines figures allongées, tortueuses, finissant en pointe, et qui, dans l'intention de l'artiste, comme aux yeux des habitants du voisinage, signifiaient des flammes. Et à ces flammes se joignaient, alternant avec elles, certaines autres figures impossibles à décrire, qui étaient censées représenter les âmes du purgatoire. Le tout, âmes et flammes, en couleur de briques sur un fond grisâtre, avec quelques brèches çà et là. Le curé, ayant passé le détour et dirigeant comme de coutume ses regards vers l'oratoire, vit une chose à laquelle il ne s'attendait pas, et qu'il n'aurait nullement voulu voir. Deux hommes, vis-à-vis l'un de l'autre, se tenaient au confluent, pour ainsi dire, des deux sentiers. L'un à cheval sur le mur bas, une jambe pendante en dehors, et l'autre pied posé sur le sol du chemin. Son compagnon debout, appuyé contre le mur et les bras croisés sur la poitrine. Le costume, la tournure, et ce que le curé, de l'endroit où il était arrivé, pouvaient distinguer de leur physionomie, ne laissaient aucun doute sur leur condition. Ils avaient l'un et l'autre, autour de la tête, une résille verte qui leur tombait sur l'épaule gauche, finissant en grosse houppe, et d'où sortait sur le front un énorme toupet. Deux longues moustaches bouclées en pointe, une ceinture luisante de cuir à laquelle tenaient deux pistolets, une petite corne pleine de poudre suspendue à leur cou comme un agrément de collier. Un manche de grand couteau qui se montrait hors de la poche de larges et bouffantes braies. Un espadon à grosse garde, travaillé à jour, en lames de laiton tournées en chiffres, polies et reluisantes. Au premier coup d'œil, on les reconnaissait pour des individus de l'espèce des Bravi. Ces espèces d'hommes, aujourd'hui tout à fait perdues, étaient alors très florissantes en Lombardie, et déjà fort anciennes. Voici, pour qui n'en aurait pas une idée, quelques extraits de pièces authentiques qui pourront faire suffisamment connaître ses principaux caractères les efforts tentés pour la détruire, et combien le principe vital était en elle tenace et vigoureux. Dès le 8 avril de l'année 1583, l'illustrissime et excellentissime seigneur Don Carlo d'Aragon, prince de Castelvetrano, duc de Terranuova, marquis d'Avola, comte de Burgetto, grand amiral et grand connétable de Sicile, gouverneur de Milan et capitaine général de Sa Majesté catholique en Italie, pleinement informé de l'intolérable souffrance dans laquelle a vécu et vit encore cette ville de Milan à cause des bravi et vagabonds, publie contre eux un délit de bannissement. Il déclare et décide que sont compris dans cet édit et doivent être tenus pour bravi et vagabonds tous ceux qui, soit étrangers, soit du pays, n'ont aucune profession ou, en ayant une, ne l'exercent pas, mais s'attachent, avec ou sans salaire, à quelque chevalier ou gentilhomme, officier ou marchand, pour lui prêter aide et main forte, ou plutôt, comme on peut le présumer, pour tendre des pièges à autrui. À tous ces gens, il ordonne que, dans le terme de 6 jours, ils aient à vider le pays, prononcent la peine de la galère contre ceux qui n'obéiront pas, et donnent à tous officiers de justice les pouvoirs les plus étrangement étendus et indéfinis pour l'exécution de cet ordre. Mais l'année suivante, et le 12 avril, le même seigneur, voyant que cette ville est encore pleine des susdits bravi, lesquels se sont remis à vivre comme ils vivaient auparavant, sans que leurs habitudes soient en rien changées ni leur nombre diminué, fait paraître une nouvelle ordonnance, plus sévère et plus remarquable, dans laquelle, entre autres mesures, il prescrit que tout individu, tant de cette ville que du dehors, que deux témoins déclarent être tenus et communément réputés pour bravo, et en avoir le nom, quand bien même n'aurait été vérifié aucun délit de son fait, pourra, pour cette seule réputation de bravo et sans autres indices, à la diligence desdits juges et de chacun d'eux, être soumis à la corde et à la question pour procès d'information. Et que, lors même qu'il n'avouerait aucun délit, il sera toutefois envoyé aux galères pour 3 ans, pour la seule réputation et le nom de bravo, comme dessus. Le tout, ainsi que le surplus que nous omettons, parce que son excellence est décidée à se faire obéir de chacun. À entendre les paroles d'un si haut personnage, paroles si énergiques, si précises, et accompagnées de tels ordres, on serait grandement porté à supposer qu'il a suffi de leur seul retentissement pour que tous les bravi aient disparu à jamais. Mais le témoignage d'un autre personnage, non moins imposant, non moins riche en noms et en titres, nous oblige à croire tout le contraire. Et celui-ci est l'illustrissime et excellentissime seigneur Juan Fernandez de Velasco, connétable de Castille, grand chambellan de Sa Majesté, duc de la cité de Frias, comte de Haro et de Castelnuovo, seigneur de la maison de Velasco et de celle des 7 enfants de Lara, gouverneur de l'état de Milan, etc. Le 5 juin de l'année 1593, pleinement informé, lui aussi, de quels dommages et ruines sont les bravi et vagabonds et du très mauvais effet que telle sorte de gens produit contre le bien public et au mépris de la justice, il leur enjoint de nouveau d'avoir, dans le terme de 6 jours, à vider le pays, répétant à peu près les ordres et les menaces de son prédécesseur. Plus tard, et le 23 mai de l'année 1598, informé, au grand déplaisir de son âme, que le nombre de ces gens, bravi et vagabonds, va croissant chaque jour dans la ville et dans l'État, et qu'on entend parler, jour et nuit, que des blessures qu'ils font par guet-apens, des homicides, des vols et toute autre sorte de crimes qu'ils commettent, et auxquels ils se rendent plus faciles dans la confiance où ils sont d'être soutenus par leurs chefs et leurs fauteurs, il prescrit de nouveau les mêmes remèdes, augmentant la dose, comme cela se pratique dans les maladies opiniâtres, et il conclut ainsi. Que chacun, donc, se garde pleinement de contrevenir en quoi que ce soit à la présente ordonnance, parce que, au lieu d'éprouver la clémence de son excellence, il éprouvera sa rigueur et sa colère. Son excellence étant résolue et déterminée à ce que ce soit ici son dernier et péremptoire avertissement. Ce ne fut pourtant pas l'avis de l'illustrissime et excellentissime seigneur, le seigneur Don Pietro Enriquez de Acevedo, comte de Fuentes, capitaine et gouverneur de l'état de Milan. Ce ne fut pas son avis, et pour bonne raison. Pleinement informé de la souffrance dans laquelle vit cette ville et état, à cause du grand nombre de bravi qui y abondent, et résolu d'extirper totalement une engeance si pernicieuse, il publie, le 16 décembre 1600, une nouvelle ordonnance, pleine encore des plus sévères comminations, avec le ferme propos que les mesures prescrites soient de tout point exécutées en toute rigueur et sans espérance de rémission. Il faut croire cependant qu'il n'y vit pas toute cette bonne volonté qu'il savait employer à ourdir des trames et à susciter des ennemis à son grand ennemi Henri IV. Car en ceci, l'histoire montre comme il parvint à armer contre ce roi le duc de Savoie, auquel il fit perdre plus d'une ville, comme il réussit à faire conspirer le duc de Biron, auquel il fit perdre la tête. Mais quant à cette engeance si pernicieuse des bravi, il est certain qu'elle continuait à pulluler le 22 septembre de l'année 1612. Ce jour, l'illustrissime et excellentissime seigneur Don Giovanni de Mendoza, marquis de la Hinojosa, gentilhomme, etc., gouverneur, etc., pensa sérieusement à l'extirper. À cet effet, il adressa à Pandolfo et Marco Tullio Malatesti, imprimeurs royaux, l'ordonnance accoutumée, avec corrections et additions, afin qu'ils l'imprimassent pour l'extermination des bravi. Mais ceux-ci vécurent encore pour recevoir, le 24 décembre de l'année 1618, des coups remarquables, ou même plus forts, de l'illustrissime et excellentissime seigneur, le seigneur Don Gomez Suarez de Figueroa, duc de Feria, gouverneur, etc. Comme pourtant il n'en était pas encore mort, l'illustrissime et excellentissime seigneur, le seigneur Gonzalo Fernandez de Cordoba, sous le gouvernement duquel eut lieu la promenade de Don Abondio, s'était vu contraint de recorriger et republier l'ordonnance ordinaire contre les bravi le 5 octobre 1627, c'est-à-dire un an, un mois et deux jours avant ce mémorable événement. Et cette publication ne fut pas la dernière. Mais nous ne croyons pas devoir faire mention de celles qui suivirent, attendu qu'elles sont en dehors du période de notre histoire. Nous en citerons seulement une, du 13 février de l'année 1632, dans laquelle l'illustrissime et excellentissime seigneur, le duc de Feria, pour la seconde fois gouverneur, nous avertit que les plus grandes scélératesses viennent de ceux qu'on appelle bravi. Cela suffit pour nous donner la certitude qu'au temps dont nous parlons, les bravi continuaient d'exister. Que les deux hommes à qui nous avons reconnu ce titre, en donnant leur portrait, fussent là pour attendre quelqu'un, c'était chose évidente. Mais ce qui causa le plus de déplaisir à Don Abondio fut de ne pouvoir se dissimuler, à certains mouvements qu'ils firent, que la personne attendue était lui. En effet, dès qu'il avait paru, ils s'étaient regardés l'un l'autre, levant la tête d'une certaine manière, à faire voir qu'ils s'étaient dit tous deux en même temps. Le voici. Celui qui était à califourchon sur le mur s'était dressé, ramenant sa jambe sur le chemin. L'autre avait quitté le mur où il était adossé, et tous deux s'acheminaient à sa rencontre. Le curé, tenant toujours son bréviaire ouvert devant lui comme s'il lisait, jetait ses regards par-dessus, pour observer les mouvements de ces personnages. Et les voyant marcher droit à lui, mille pensées toutes à la fois l'assaillirent. Il se demanda précipitamment si, entre lui et les bravi, il y aurait quelque issue dans le chemin à droite ou à gauche, et se souvint aussitôt qu'il n'y en avait aucune. Il fit un rapide examen dans ses souvenirs pour rechercher s'il aurait péché contre quelque homme puissant, contre quelque homme vindicatif. Mais au milieu même de son trouble, le témoignage consolant de sa conscience le rassurait jusqu'à un certain point. Et les bravi cependant s'approchaient, les yeux attachés sur lui. Il mit l'index et le doigt du milieu de sa main gauche dans le col de son rabat, comme pour le rajuster. Et faisant circuler les deux doigts autour de son cou, il tournait en même temps la tête en arrière, tendant la bouche et cherchant à voir du coin de l'œil, aussi loin qu'il pouvait, si quelqu'un n'arrivait pas. Mais il ne vit personne. Il lança un coup d'œil par-dessus le petit mur dans les champs, personne. Un autre plus timide en avant sur le chemin, personne que les bravis. Que faire? Retourner sur ses pas? Il n'était plus temps. Fuir? C'était comme dire « Poursuivez-moi » ou pis encore. Ne pouvant se soustraire au danger, il y courut, parce que les moments de cette incertitude lui étaient désormais si pénibles qu'il ne songeait plus qu'à les abréger. Il pressa le pas, récita un verset d'une voix plus haute, composa sa physionomie pour lui donner autant de calme et d'hilarité qu'il lui fut possible, fit tous ses efforts pour préparer un sourire, et quand il se trouva face à face avec les deux honnêtes gens, il dit mentalement « Nous y voilà !» et s'arrêta tout court. « Monsieur le curé, dit l'un des deux, en le regardant fixement au visage. « Que désire monsieur ?» répondit aussitôt Don Abondio, levant les yeux de dessus son livre, qui resta tout ouvert sur ses mains, comme sur un pupitre. « Vous avez l'intention, poursuivit l'autre du ton menaçant et irrité d'un homme qui surprend son inférieur prêt à faire une mauvaise action. Vous avez l'intention de marier demain Renzo Tramalino et Lucia Mondella. « C'est-à-dire, répondit d'une voix tremblotante Don Abondio, c'est-à-dire, ces messieurs sont gens du monde et savent très bien comment se passent ces sortes de choses. Le pauvre curé n'y entre pour rien. Ils font leurs arrangements entre eux, et puis ils viennent à nous, comme on irait à un comptoir recevoir son argent. Et nous sommes les serviteurs du public. Eh bien, lui dit le bravo à l'oreille, mais d'un ton solennel de commandement, ce mariage ne doit point se faire, ni demain, ni jamais. Mais messieurs, répliqua Don Abondio, avec la voix douce et polie de celui qui veut persuader un impatient, mais messieurs, daignez-vous mettre à ma place. « Si la chose dépendait de moi, vous voyez bien qu'il n'en entre rien dans ma poche. »« Ah ça !» interrompit le bravo, « si la chose devait se décider par du bavardage, vous nous mettriez dans le sac. Nous n'en savons, et n'en voulons pas savoir davantage. Homme averti, vous entendez ?»« Mais ces messieurs sont trop justes, trop raisonnables. » Mais interrompit cette fois l'autre camarade, qui n'avait rien dit jusqu'alors. « Mais le mariage ne se fera pas, ou... » et ici un bon juron, où celui qui l'aura fait ne s'en repentira pas, car il n'en aura pas le temps, et un autre juron. « Paix, paix, reprit le premier orateur, monsieur le curé est un homme qui sait vivre, et nous sommes d'honnêtes gens qui ne voulons pas lui faire de mal, pourvu qu'il soit prudent et sage. Monsieur le curé, l'illustrissime seigneur Don Rodrigo, notre maître, vous salue bien sincèrement. » Ce nom fut dans l'esprit de Don Abondio, ce qu'est, dans le fort d'un orage pendant la nuit, un éclair qui, répandant sur les objets une lumière confuse et momentanée, ajoute encore à l'épouvante. Il fit, comme par instinct, une inclination profonde et dit « Si ces messieurs pouvaient me suggérer… »« Oh, vous suggérez, à vous qui savez le latin ?» interrompit encore le bravo, avec un rire qui tenait de l'ignoble et du féroce. « C'est votre affaire !» et surtout qu'il ne vous échappe pas un mot sur cet avis que nous vous avons donné pour votre bien. Autrement, ce serait tout comme si vous faisiez le mariage. Allons, que voulez-vous qu'il soit dit de votre part à l'illustrissime seigneur Don Rodrigo? Mes respects, expliquez-vous mieux. Disposez, toujours disposez à l'obéissance. Et en prononçant ces mots, il ne savait lui-même s'il faisait une promesse ou un compliment. Les bravis les prirent ou parurent les prendre dans leur sens le plus sérieux. « Fort bien, et bonne nuit, sire curé, » dit l'un d'eux, prêt à partir avec son compagnon. Don Abondio, qui, peu de moments avant, eût donné l'un de ses yeux pour les éviter, aurait voulu maintenant prolonger la conversation et les pourparler. « Messieurs, » commençait-il à dire en fermant le livre de ses deux mains. Mais ceux-ci, sans l'écouter davantage, prirent le chemin par où il était venu lui-même et s'éloignèrent en chantant une vilaine chanson que je ne veux pas transcrire. Le pauvre Don Abondio demeura un moment la bouche ouverte et comme frappé d'un charme. Puis il prit celui des deux sentiers qui conduisaient à sa maison, mettant avec peine une jambe devant l'autre, tant la crampe paraissait les avoir saisis. Quant à l'état où il se trouvait intérieurement, on le comprendra mieux quand nous aurons dit quelque chose de son caractère et des temps où il lui avait été donné de vivre. Don Abbondio, le lecteur s'en est déjà aperçu, n'était pas né avec un cœur de lion. Mais dès ses premières années, il avait dû comprendre que le pire des conditions dans ces temps-là était celle d'un animal sans dents et sans griffes, et qui pourtant ne se sent point de penchant à être dévoré. La force légale ne protégeait en aucune manière l'homme paisible, inoffensif, et qui n'avait pas d'autre moyen de faire peur. Ce n'est pas que l'on manquât de lois et de peines contre les violences entre particuliers. Bien au contraire, les lois venaient par déluge. Les délits étaient énumérés et particularisés avec une minutieuse prolixité, les peines follement exorbitantes et de plus susceptibles d'être augmentées, presque pour chaque circonstance, à la discrétion du législateur lui-même et de 100 exécuteurs. Les formes de procédure calculées seulement pour débarrasser le juge de tout ce qui aurait pu l'empêcher de prononcer une condamnation. Les extraits que nous avons rapportés des édits contre les Bravi en sont un faible mais fidèle exemple. Malgré tout cela, et même en grande partie pour cette cause, ces édits répétés et renforcés d'un gouverneur à l'autre ne servaient qu'à attester en termes ampoulés l'impuissance de leurs auteurs. Ou, s'ils produisaient quelque effet immédiat, c'était essentiellement d'ajouter de nombreuses vexations à celles que les personnes faibles et pacifiques souffraient déjà de la part des perturbateurs et d'accroître les violences de ceux-ci comme leur astuce. L'impunité était organisée et avait des racines que les ordonnances n'atteignaient pas ou ne pouvaient ébranler. Tels étaient les asiles, tels étaient les privilèges de certaines classes, en partie reconnus par la force légale, en partie tolérés avec un envieux silence ou combattus par de vaines protestations. Mais soutenus de fait et défendus par ces classes avec l'activité de l'intérêt propre et la jalousie du point d'honneur. Or, cette impunité menacée et insultée, mais non détruite par les ordonnances, devait naturellement, à chaque menace, à chaque insulte, faire de nouveaux efforts, recourir à de nouvelles inventions pour se conserver. C'est ce qui arrivait en effet, et chaque fois que paraissaient des ordonnances ayant pour objet de réprimer les auteurs de méfaits et de violences, ceux-ci cherchaient dans leurs forces réelles des moyens nouveaux et plus opportuns pour continuer de faire ce que les ordonnances venaient leur prohiber. Elles pouvaient bien entraver à chaque pas et molester l'homme tranquille qui n'avait pas de force à lui propre et se trouvait sans protection parce que, dans le but d'avoir chaque individu sous la main pour prévenir ou punir chaque délit, elles soumettaient toutes les actions privées à la volonté arbitraire d'exécuteurs de toutes sortes. Mais celui qui, avant de commettre un délit, avait pris ses mesures pour se réfugier à temps dans un couvent, dans un palais, où les sbires n'auraient jamais osé mettre le pied, celui qui, sans autre précaution, portait une livrée qui engageait la vanité et l'intérêt d'une famille puissante, de toute une classe, à le défendre, celui-là était libre dans ses œuvres et pouvait se rire de tout ce fracas d'édits et d'ordonnances. Parmi ceux même à qui était confié le soin de les faire exécuter, les uns appartenaient par leur naissance à la partie de la société où résidaient les privilèges, d'autres en dépendaient par clientèle. Les uns et les autres, par éducation, par intérêt, par habitude, par imitation, en avaient embrassé les maximes et se seraient bien gardés d'aller à l'encontre pour un morceau de papier affiché au coin des rues. Quant aux agents chargés de l'exécution immédiate, eussent-ils été, entreprenant comme des héros, obéissant comme des moines et prêts à se sacrifier comme des martyrs, ils n'auraient pu réussir, inférieurs comme ils étaient, en nombre à ceux qu'il s'agissait de soumettre, sans compter la probabilité fort grande pour eux d'être abandonnés par ceux qui, abstractivement et pour ainsi dire en théorie, leur ordonnaient d'opérer. Mais d'ailleurs, ces agents étaient généralement pris parmi les êtres les plus abjects et les plus pervers de leur temps. Leur emploi était regardé comme vil par ceux-là même qui pouvaient en avoir peur et leur titre valait une injure. Il était donc tout simple qu'au lieu d'exposer ou même de livrer leur vie dans une entreprise désespérée, ils vendissent leur inaction et au besoin leur connivence aux hommes puissants et réservassent l'exercice de leur autorité exécrée et de la force dont ils étaient réellement investis pour les occasions où il n'y avait pas de risque à courir, c'est-à-dire pour opprimer et tourmenter les gens paisibles et sans défense. L'homme qui veut attaquer les autres ou qui craint à chaque instant d'être attaqué lui-même cherche naturellement des alliés et des compagnons. De là vient que, dans ce temps, on croyait porter au plus haut degré la tendance des individus à se tenir coalisés en classe, à en former de nouvelles, et chacun à procurer la plus grande somme de pouvoir à celle dont il faisait partie. Le clergé veillait au maintien et à l'extension de ses immunités, la noblesse de ses privilèges, le militaire de ses exemptions. Les marchands, les artisans étaient enrôlés en maîtrises et en confréries. Les hommes de loi formaient une association, les médecins même une corporation. Chacun de ces petites oligarchies avait sa force spéciale et propre. Dans chacune, l'individu trouvait l'avantage d'employer pour soi, à proportion de son autorité et de son adresse, les forces réunies de plusieurs. Les plus honnêtes n'usaient de cet avantage que pour la défense. Les fourbes et les méchants en profitaient pour mener à fin de mauvaises actions auxquelles leurs moyens personnels n'auraient pu suffire et pour s'en assurer l'impunité. Les forces cependant de ces diverses ligues étaient très inégales. Et dans les campagnes surtout, le noble, riche et pratiquant la violence, avec une troupe de bravi à ses gages, et de plus avec une population de paysans habitués par tradition de famille, non moins qu'intéressés ou forcés à se regarder en quelque sorte comme sujets et soldats du maître, exerçait un pouvoir auquel il eût été difficile qu'aucune autre fraction de ligue pût dans le lieu même opposer quelque moyen de résister. Notre don Abbondio, qui n'était ni noble, ni riche, encore moins courageux, s'était donc aperçu, presque avant d'atteindre l'âge de la raison, qu'il était, dans cette société, comme un pot de terre, obligé de faire route en compagnie de nombreux pots de fer. Il avait en conséquence obéi de fort bon gré à ses parents lorsqu'ils avaient voulu en faire un prêtre. À dire vrai, il n'avait pas beaucoup réfléchi aux devoirs et aux nobles fins du ministère auquel il se consacrait. S'assurer de quoi vivre avec quelque aisance et se placer dans une classe forte et respectée étaient deux raisons qui lui avaient paru plus que suffisantes pour le déterminer à un tel choix. Mais une classe quelconque ne protège un individu, ne le garantit que jusqu'à un certain point. Aucune ne le dispense de se faire un système particulier de conduite. Don Abbondio, continuellement absorbé dans les pensées de son propre repos, ne recherchait point ces avantages qui n'eussent pu s'obtenir qu'en agissant beaucoup et se risquant un peu. Son système consistait principalement à fuir toute contestation et à céder dans celle qu'il ne pouvait éviter. Neutralité des armées dans toutes les guerres qui éclataient autour de lui par les démêlés, alors très fréquents, entre le clergé et le pouvoir séculier, entre le militaire et le civil, entre nobles et nobles, jusqu'aux disputes entre deux paysans qu'un mot faisait naître et qui se décidaient à coups de poing ou de couteau. S'il se trouvait absolument obligé à prendre parti entre deux contendants, il se mettait du côté du plus fort, toujours pourtant à l'arrière-garde et tâchant de faire voir à l'autre qu'il n'était pas volontairement son ennemi. Il semblait lui dire « Que n'avez-vous su être le plus fort vous-même ? Je me serais rangé de votre bord. » Se tenant à distance des hommes connus pour opprimer les autres, dissimulant leurs injures lorsqu'elles étaient passagères et nées d'un caprice, répondant par de la soumission à celles qui venaient d'une intention plus sérieuse et plus réfléchie, obligeant, à force de révérences et de gracieux respect, les plus bourrues et les plus dédaigneuses à lui accorder un sourire lorsqu'il les rencontrait sur son chemin, le pauvre homme était parvenu à dépasser ses 60 ans sans trop essuyer de bourrasque. Ce n'est pas qu'il n'eût lui aussi sa petite dose de fiel dans le corps, et cet exercice continuel de patience, cette obligation de donner si souvent raison aux autres, tant de morceaux amers avalés en silence, lui avaient aigri ce fiel à tel point que, s'il n'avait pu de temps en temps le laisser un peu s'épancher, sa santé en aurait certainement souffert. Mais comme après tout, il y avait au monde et près de lui des personnes qu'il connaissait à fond pour être incapable de mal faire, il pouvait avec elles se soulager quelquefois de sa mauvaise humeur longtemps concentrée et se passer comme un autre l'envie d'être un peu fantasque et de gronder à tort. Il était censeur rigide des hommes qui n'agissaient pas comme lui, pourvu toutefois que sa censure pût s'exercer sans aucun danger, quelque lointain qu'il pût être. Le battu était pour le moins un imprudent. L'homme tué avait toujours été querelleur de caractère. Si quelqu'un, s'étant mis à soutenir ses raisons contre un homme puissant, perdait sa cause avec dommage, Don Abbondio savait toujours lui trouver quelque tort, chose qui n'était pas difficile, puisque la raison et le tort ne sont jamais si nettement tranchés que chacune des deux parties adverses n'est absolument pour elle que l'un des deux. Il déclamait surtout contre ceux de ses confrères qui ne craignaient pas de s'exposer en prenant le parti d'un homme faible opprimé contre un méchant homme puissant. Il appelait cela acheter du souci à beau denier comptant et vouloir redresser les jambes aux chiens. Il disait aussi d'un ton sévère que c'était s'ingérer dans les choses profanes au détriment de la dignité du ministère sacré. Et il se prononçait contre ceci toujours cependant entre quatre yeux ou dans un comité bien restreint, avec d'autant plus de véhémence qu'ils étaient plus connus pour ne pas montrer de ressentiment dans les offenses qui leur étaient personnelles. Il avait enfin une maxime favorite par laquelle il mettait toujours le sceau à ses discours en pareille matière. C'était que, pour l'honnête homme qui prend garde à soi et ne se mêle que de ce qui le regarde, il n'y a jamais de mauvaise rencontre. Maintenant que mes 25 lecteurs se figurent l'impression que dut faire sur l'âme du pauvre homme ce qui vient d'être raconté. La frayeur que lui avaient causé ses mauvais visages et ses vilaines paroles, les menaces d'un seigneur connu pour ne pas menacer en vain, un système de vie tranquille qui lui avait coûté tant d'années d'études et de patience, renversé en un instant, et un défilé d'où il ne voyait comment il pourrait sortir. Toutes ces pensées grondaient tumultueusement dans la tête de Don Abbondio pendant qu'il cheminait les yeux à terre. Si Renzo était un homme que l'on put renvoyer en paix avec un bel et bon refus, passe encore. Mais il voudra des raisons, et bon Dieu, qu'aurais-je à lui répondre? C'est une tête aussi, celui-là. Un agneau si personne ne le touche, mais si on le contrarie, brrr. Et puis il est fou de cette Lucia, amoureux comme... Grands enfants qui, ne sachant que faire, se prennent d'amour, veulent se marier et ne pensent pas à autre chose, ne s'inquiètent pas de la peine dans laquelle ils mettent un pauvre honnête homme. Oh, malheureux que je suis! Fallait-il donc que ces deux vilaines figures vinssent se planter tout juste sur mon chemin et s'attaquer à moi? Est-ce que cela me regarde? Est-ce moi qui veux me marier? Que ne sont-ils plutôt allés parler? Ah, voyez un peu la fatalité, les bonnes idées me viennent toujours après coup. Si j'avais pensé à leur suggérer d'aller porter leur message. Mais ici il s'aperçut que se repentir de n'avoir pas été le conseiller et le coopérateur de l'iniquité était chose aussi trop inique, et il tourna toute l'aigreur de ses pensées contre celui qui venait si durement lui ravir son repos. Il ne connaissait Don Rodrigo que de vue et sur le dire des autres, et n'avait jamais eu d'autres rapports avec lui que de se courber en deux doubles et de faire toucher la terre à son chapeau lorsqu'il l'avait, par un hasard assez rare, rencontré sur ses pas. Il lui était arrivé de défendre, en plus d'une occasion, la réputation de ce seigneur contre ceux qui, à voix basse, soupirant et levant les yeux au ciel, maudissaient quelqu'un de ses actes. Il avait dit 100 fois que c'était un respectable gentilhomme. Mais dans ce moment, il ne lui donna dans son cœur tous ces titres qu'il ne lui avait jamais entendu appliquer par d'autres, sans se hâter de les interrompre par un « Allons donc !» Arrivé au milieu du tumulte de ses pensées, à la porte de sa maison qui était au bout du village, il mit précipitamment dans la serrure la clé qu'il tenait déjà dans sa main, ouvrit, entra, referma soigneusement, et, pressé de se trouver en compagnie sûre, « Perpétua ! Perpétua ! » cria-t-il aussitôt, En allant vers le petit salon où, sûrement, celle-ci devait être à mettre le couvert pour le souper. Perpétua, comme on voit, était la servante de Don Abondio, servante fidèle et affectionnée, qui savait obéir et commander selon l'occasion, supporter à propos les gronderies et les caprices d'humeur de son maître, comme aussi lui faire à propos supporter les siens, qui devenaient de jour en jour plus fréquents, depuis qu'elle avait passé l'âge canonique de 40 ans, en restant fille, parce que, selon son dire, elle avait refusé tous les partis qui s'étaient présentés, ou, selon le dire de ses amis, parce qu'elle n'avait pas trouvé un chien qui voulût d'elle. « J'y vais, répondit-elle, en mettant sur la table à la place ordinaire le flacon de vin favori de Don Abondio, et elle vint lentement. Mais elle n'était pas encore à la porte du petit salon, qu'il y entra d'un pas si incertain, avec un regard si troublé, un visage si décomposé, qu'il n'eût pas été besoin des yeux experts de Perpétua pour découvrir, au premier abord, qu'il lui était arrivé quelque chose de fort extraordinaire. « Miséricorde, qu'avez-vous donc, mon cher maître ?»« Rien, rien, » répondit Don Abondio en se laissant aller tout essoufflé sur son grand fauteuil. « Comment rien? C'est à moi que vous voudriez le faire croire? Bouleversé comme vous êtes, quelque aventure étrange est arrivée. Oh, pour l'amour du ciel, quand je dis rien, c'est que ce n'est rien, ou c'est quelque chose que je ne puis dire. Que vous ne pouvez dire, pas même à moi? Et qui prendra soin de votre santé? Qui vous donnera un avis? Eh, taisez-vous et laissez là le couvert. Donnez-moi un verre de mon vin. Et vous voudriez me soutenir que vous n'avez rien? Dit Perpétua, en remplissant le verre et le gardant ensuite à la main, comme si elle voulait en faire le prix d'une confidence qui se faisait si longtemps attendre. « Donnez, donnez !» dit Don Abondio, en lui prenant le verre d'une main peu ferme et le vidant ensuite avec précipitation, ainsi qu'il eût fait d'une médecine. « Vous voulez donc que je sois obligé d'aller demander de côté et d'autre ce qui est arrivé à mon maître ?» dit Perpétua, debout devant lui, les mains renversées sur les hanches, les coudes en avant, et regardant fixement, comme si elle eût voulu lui tirer des yeux son secret. « Pour l'amour du ciel, ne faites pas de commérage, ne faites pas de bruit. Il y va de la vie. »«
De la vie?
De la vie. Vous savez bien que, lorsque vous m'avez dit quelque chose sincèrement, en confidence, je n'ai jamais... Oui, tout juste, comme par exemple lorsque... » Perpétua s'aperçut qu'elle avait touché une fausse corde, et, changeant subitement de ton, « Mon cher maître, dit-elle d'une voix émue et propre à émouvoir, je vous ai toujours été affectionné, et si maintenant je veux savoir ce qui vous trouble, c'est par intérêt pour vous, parce que je voudrais pouvoir vous prêter secours, vous donner un bon conseil, soulager votre cœur. » Le fait est que Don Abondio avait peut-être autant d'envie de se décharger de son douloureux secret que Perpétua de le connaître. D'où il suit qu'après avoir repoussé toujours plus faiblement les nouveaux assauts toujours plus pressants de celle-ci, après lui avoir fait jurer plus d'une fois qu'elle ne soufflerait pas un mot de ce qu'il allait dire, il finit, avec maintes pauses, avec maintes hélas, par lui raconter la déplorable aventure. Lorsqu'il en vint au nom terrible de celui qui avait ordonné le message, il fallut que Perpétua prononçât un nouveau serment encore plus solennel. Et Don Abondio, ce nom une fois sorti de sa bouche, se renversa sur le dos de son siège en poussant un grand soupir, levant les mains d'un air tout à la fois de commandement et de supplication, et disant « Pour l'amour du ciel !»« Encore une des siennes !» s'écria Perpétua. « Ah, quel coquin ! Oh, quel méchant ! Oh, quel mécréant ! Voulez-vous vous taire ou voulez-vous me perdre tout à fait ? Oh, nous sommes seuls ici, et personne ne nous entend. Mais comment ferez-vous, mon pauvre maître ?» Là, voyez, dit Don Abondio d'une voix aigre, voyez quel beau conseil elle sait me donner. Elle vient me demander comment je ferai, comment je ferai, comme si c'était elle qui fût dans l'embarras, et moi qui dus se l'en faire sortir. Ah, je l'aurais bien, mon pauvre avis, à vous donner. Mais ensuite, voyons. Mon avis serait que, puisque tout le monde dit que votre archevêque est un saint homme, qui n'a peur de personne, et qui, lorsqu'il peut mettre à la raison un de ses méchants pour soutenir un curé, s'y engraisse de plaisir. Je dirais, et je dis qu'il faudrait que vous lui écrivissiez une belle lettre pour l'informer comme quoi « Voulez-vous vous taire? Voulez-vous vous taire? Sont-ce là des avis à donner à un pauvre homme? Quand j'aurais attrapé un coup de fusil dans le dos, ce dont Dieu me garde, l'archevêque me l'ôterait-il? Bah, les coups de fusil ne se donnent pas comme des prunes. Et où en serions-nous si tous ces chiens-là mordaient toutes les fois qu'ils aboient? Pour moi, j'ai toujours vu que celui qui sait montrer les dents et se faire considérer comme il convient, celui-là on le respecte. Et c'est précisément parce que vous ne voulez jamais dire vos raisons que nous en sommes réduits à voir chacun venir, sauf votre respect. Nous... Voulez-vous vous taire? Je me tais, mais il n'en est pas moins vrai que lorsque les gens s'aperçoivent qu'un homme, en toutes circonstances, est toujours prêt à mettre bas ses... Voulez-vous vous taire? Est-ce bien le moment de dire de pareilles sottises? Suffit, vous y penserez cette nuit. Mais en attendant, ne commencez pas par vous faire du mal vous-même, par ruiner votre santé. Mangez un morceau. J'y penserai, répondit en grommelant Don Abondio. Sûrement que j'y penserai, et il faut que j'y pense. Et il se leva en ajoutant. Je ne veux rien prendre, rien. J'ai bien autre chose en tête. Je le sais bien que c'est à moi d'y penser. Allons, il fallait que cela tombât tout juste sur moi. Avalez au moins encore cette petite goutte, dit Perpétua en lui versant du vin. Vous savez que cela vous remet toujours l'estomac. Eh, c'est autre chose qu'il me faut, c'est autre chose, c'est autre chose. Et en disant ces mots, il prit la lampe et murmurant toujours, petite bagatelle, à un honnête homme comme moi, et demain, comment cela ira-t-il? Et autre lamentation semblable, il s'achemina pour monter à sa chambre. Arrivé sur la porte, il se retourna vers Perpétua, se mit le doigt sur la bouche, dit d'un ton lent et solennel « Pour l'amour du ciel !» et disparut.